Il y a cette nouvelle ce matin dans la presse qui est absolument assommante. C'est l'histoire d'un bébé, un enfant de 15 mois, qui a été amené dans un hôpital de Montréal. Ça s'est produit le printemps dernier et compte tenu de son état, le SPVM enquête sur le dossier et la DPJ également est entrée dans le dossier. Alors cet enfant-là, donc de 15 mois, pèse à peine 6 kilos, ce qui est le poids, paraît-il, moyen d'un bébé de 2 mois et demi. Et là, il fait preuve de nombreuses carences. En gros, c'est un enfant qui est mal nourri, c'est un enfant qui est rachitique. Je cite l'article ce matin, « Ses os étaient transparents et friables au point de se casser à rien. Les médecins ont découvert que l'enfant présentait d'autres factures, dont 2 aux jambes et 2 aux bras. Le poupon a été hospitalisé parce qu'on craignait qu'il fasse un arrêt cardiaque. » C'est quand même assez sérieux. Et là, tu dis, mais pourquoi? Et là, il paraît que c'est... D'abord, les parents ne collaborent pas. Et que la mère suivait ce qu'on appelle une diète très restrictive, une diète végétalienne. Elle ne consommait que des fruits et que son lait maternel n'était pas assez riche. On ne peut pas parler du cas spécifique parce qu'on n'a pas l'info et c'est sous enquête. Mais quand même, de voir qu'il y a des gens qui, pas parce qu'ils sont pauvres, là, mais par choix, décident d'avoir une diète comme ça, très, très dure, très, très limitée, puis de l'imposer à leur enfant, avec les conséquences que ça peut vouloir dire. C'est assez troublant. Docteur Julie Saint-Pierre est avec nous, pédiatre qui est professeur à la Faculté de médecine de l'Université McGill. Docteur Saint-Pierre, bonjour.
Bon matin.
D'abord, là, les cas de malnutrition, j'imagine que c'est assez rare.
Écoutez, ça l'était. Ça l'est de moins en moins. Et ça suit la tangente annoncée par nos organismes de surveillance internationale. C'est dans les deux extrêmes. Donc, soit trop petit, soit en excès de poids. Donc, effectivement, depuis, c'est intéressant, c'est d'abord une catastrophe d'entendre qu'est-ce qui est arrivé, puis ce sont des cas extrêmes qui, heureusement, n'arrivent pas tous les jours. Ça arrache le cœur, comme on dit. Mais c'est de moins en moins rare qu'on reçoive des consultations en pédiatrie d'enfants avec des modes de vie qui sont particuliers, qui ne sont pas accompagnés par des professionnels de santé.
Qu'est-ce que vous voulez dire, par mode de vie particulier?
Ben, en fait, des régimes pour lesquels le parent, à la base, a un désir de bienfaisance. En fait, il veut que son enfant soit en santé, qu'il soit exempt d'antibiotiques, qu'il n'ait pas de catastrophe dans son sang, d'inflammation et tout. Donc, ces gens-là se dirigent vers des régimes ou des idéologies, j'irais jusque-là dans mes propos, sur des blogs bien souvent qui sont fermés, où est-ce que les gens disent, ben nous, on veut que notre enfant soit élevé de la façon la plus saine possible, mais sans accompagnement scientifique. Donc, on se retrouve avec des enfants de moins en moins. Moi, juste en 2 ans et demi, j'en ai reçu peut-être 7-8 des consultations comme celle-là. Pas aussi grave, bien sûr, mais où est-ce que le médecin de famille ou l'infirmière qui suit la croissance de l'enfant était inquiet, qui nous ont envoyé l'enfant en disant ben, ils ont un régime végétarien, végétalien, parfois extrême, avec une fermeture de collaboration. Ça, c'est des choses qui arrivent souvent. On doit à ce moment-là contacter la direction de la protection de la jeunesse, qui sont très aidants dans ces cas-là en particulier. Toujours est-il, il faut avoir l'accès, mais à partir du moment où l'enfant est pris en charge, il y a un accompagnement qui doit se faire au niveau des compétences parentales et du jugement de ces parents-là qui parfois sont isolés. Hein? Il y a un proverbe africain qui disait ça prend tout un village pour élever un enfant. Ben, je vous dirais que nos grands-mères puis nos mères qui nous relevaient il y a à peine 20 ans ont été remplacées par des blogs, par de l'isolement, des mamans qui sont parfois fatiguées, qui n'ont pas d'accès à des soins en postpartum et qui cherchent dans le fond une façon d'avoir des connaissances puis d'être capable d'accompagner leur enfant, mais tout ça en grande partie par un manque d'accessibilité.
Mais là, vous m'avez dit aussi que dans ces cas-là, souvent, là, je ne parle pas des cas de maltraitance, mm-hmm. là, mais des parents qui veulent le bien de leur enfant, des parents qui veulent vraiment faire les choses correctement, comment ça se fait qu'ils n'allument pas quand ils voient que le bébé prend pas de poids, que même le bébé perd du poids, qui est rendu à 15 mois puis qui est faible?
Ben, écoutez, c'est là où est-ce que on a un grave problème, puis on peut pas, on ne connaît pas le cas en particulier, on ne peut pas le commenter, mais je peux vous dire que de ma petite expérience des 15 dernières années, on a des parents qui sont fragiles d'un point de vue de la santé mentale, puis à un moment donné, ils vont tomber dans un excès comme ça pour être capables de s'accrocher à quelque chose, sont fragiles, sont vulnérables, puis le jugement n'est plus là. Ce qu'on voit, c'est qu'ils se braquent bien souvent. C'est un peu comme les vaccins. Hein. Je vous dirais qu'il y a des gens qui sont bien ancrés dans leurs idées, puis c'est impossible de leur faire changer, même si la science est claire. Faut dire que le régime végétarien chez les enfants n'est pas interdit. Hein. Les pédiatres, en 2010, on a écrit un énoncé canadien avec les nutritionnistes du Canada où est-ce qu'on a toutes les recommandations pour bien accompagner le choix des parents qui souhaitent avoir un choix comme ça. C'est pas malsain, mais ça doit se faire avec un accompagnement professionnel. Puis c'est pas uniquement non plus avec la nutrition qu'on peut le faire avec une nutritionniste en CLSC. Ça nous prend aussi des médecins qui sont capables d'accompagner ces jeunes-là. Parce que, bon, il y a des problématiques, pas juste au niveau du calcium, mais il va y avoir des problématiques au niveau du fer, du zinc. Quand on a trop de fibres, comme dans le cas qui est partiel au niveau de l'information, ben là, on crée plus de malabsorption. Donc, l'enfant, quand il y a trop de fibres, ben il ne va pas retenir adéquatement les vitamines. Donc, ça aggrave le problème quand il n'y a rien d'autre dans son alimentation.
Un enfant qui a été mal nourri comme ça, là, comment on le récupère? Comment on le ramène vers des cibles qui sont réalistes pour un enfant de son âge puis qui va grandir en santé?
Écoutez, on espère de tout cœur qu'il n'aura pas de séquelles. Il peut y avoir des séquelles. Hein. Le rachitisme, là, ça reste une maladie grave pour lesquelles il peut y avoir des retards mentaux. C'est intéressant de se rappeler l'histoire du Québec en même temps. Hein. Dans les années 50, il y a un pédiatre ici à Montréal, le docteur Charles Scriver, aux Children, qui avait convaincu son grand chum, M. Steinberg, de mettre de la vitamine D et du calcium dans le lait au Québec. Avec cette mesure simple, préventive, il avait réussi à éradiquer le rachitisme au Québec. Puis je discutais avec un de mes collègues spécialistes de la croissance et des hormones des enfants récemment en endocrinologie pédiatrique et il me disait « On a un retour de rachitisme au Québec, peux-tu croire ça? » Et c'est malheureux, mais comme je vous le dis, on a des gens qui sont en manque de services, on a des gens qui sont en manque de réponses. La science a perdu beaucoup de sa notoriété avec les réseaux sociaux et malheureusement, les parents sont mal informés, mal accompagnés dans les choix de santé qu'ils font pour leurs enfants.
Merci beaucoup, vraiment, Dr. Saint-Pierre. Plaisir. Bonne journée. Dr. Julie Saint-Pierre, qui est professeure associée de pédiatrie à la Faculté de médecine de l'Université McGill. C'est assez troublant. On peut respecter les choix alimentaires des parents, des adultes, mais il y a des limites à ce qu'on impose à un enfant. Et là, quand tu dis que cet enfant-là peut-être va avoir des séquelles, et que c'est un choix, là, c'est pas une conséquence de la pauvreté. C'est-à-dire que pour des raisons quasi religieuses, là, parce que ça devient presque sectaire, on se tourne vers des diètes qui n'ont pas de sens. Quand c'est un adulte, ben, c'est son choix jusqu'à un certain point, mais après ça, quand on l'impose à des enfants, là, c'est une autre affaire.